À tous et à toutes. Donc, ça fait 2 ans maintenant que nous sommes à l'église de Villers et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. J'ai pu venir dans ces locaux pour la formation équipe à plusieurs reprises durant ces 2 années et je ne pouvais pas être là dimanche dernier parce que j'étais de service à l'église de Villers pour dire au revoir à Jean-Haut, mais Jean-Haut, je le verrai à d'autres occasions. Puisqu'on est collègues et on se verra aux rencontres pastorales au niveau national. Merci Daniel pour cette interpellation sur ce qui est en nous, et je crois que c'est vraiment un élément important dans notre vie. Parce que, je pense que vous en êtes convaincus comme moi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et que notre vie est parfois semblable à un bateau qui prend la mer et qui est confronté à une tempête en plein cœur de l'océan. Bateau qui a du mal à garder le cap. Et l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, aborde cette question des épreuves que nous traversons. D'ailleurs, c'est le thème de fond de sa première lettre. Et ce que je propose ce matin, c'est que nous puissions lire dans la première lettre de Pierre, au chapitre 4, les versets 12 à 19. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit tandis que vous, vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu de cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Les destinataires de la lettre de Pierre étaient des Juifs qui étaient dans la région de l'Asie mineure et qui souffraient à cause de leur foi. Mais en fait, quand on réfléchit, enfin moi je réfléchissais en préparant ce texte et je me disais que les autres sources de souffrance, elles sont finalement toutes une mise à l'épreuve de notre foi. Et je pense qu'en France, on n'est pas trop persécuté pour l'instant. Il y a une certaine forme de persécution qui est latente. Alors je pense sincèrement que ces versets, ils sont aussi pour nous. Et Pierre dit ici que les souffrances ne doivent pas les empêcher de se réjouir. Et cela pour 3 raisons que je propose de voir ensemble. Et si on reprend l'image du voilier qui part pour une course, les 3 raisons de se réjouir sont liées à la fois au départ, au parcours et à l'arrivée. Et c'est les 3 points qu'on va voir, voilà. La joie du départ. Pierre les appelle mes bien-aimés. C'est la 2e fois dans la lettre qu'il les appelle mes bien-aimés. On voit là qu'une relation d'amour entre Pierre et les destinataires de cette lettre. Il s'adresse à des frères et des sœurs en Christ Et il leur dit, au verset 2, « Réjouissez-vous de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. » S'ils prennent part aux souffrances de Christ, c'est parce qu'ils sont devenus un jour enfants de Dieu, disciples de Jésus, pécheurs pardonnés par grâce et qu'ils ont été unis au Christ par la foi. Et il me semble important que tout au long de notre vie, de se souvenir de ce point de départ où nous avons pris le large avec Jésus. Comme le disait Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens, quand il dit « Mais vous avez accueilli la parole de Dieu au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit, vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Est-ce que vous vous souvenez de ce jour ou de cette période où votre foi en Jésus est née? N'y a-t-il pas beaucoup de joie à ne plus être écrasé par la culpabilité, par la honte ou par la peur? N'y a-t-il pas beaucoup de joie à accueillir dans sa vie la grâce de Dieu, à saisir l'amour de Dieu pour nous qu'il a manifesté en Jésus, à ne plus vivre dans les ténèbres, mais dans la présence bienfaisante et lumineuse de Christ? Et cela m'amène, et j'espère que cela vous amène à pouvoir jour après jour exprimer notre reconnaissance à Dieu, notre amour pour Dieu. Alors Pierre parle ici de participer aux souffrances de Christ. Et c'est peut-être une expression qui peut nous interpeller, nous poser des questions. Parce que Christ a souffert à la croix de Golgotha. Et sa mort à la croix est pleinement suffisante pour notre salut. Mais Pierre dit ici que les souffrances de Christ ne se sont pas arrêtées là. Aujourd'hui, et depuis que Christ est ressuscité, Christ souffre d'une autre manière, parce que l'Église, son corps, est persécutée. Quand Jésus s'est révélé à Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens, Jésus lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu ?» En tant que membre de ce corps, parce que nous sommes liés indéfectiblement à Christ, eh bien le disciple de Christ est perçu et traité comme Christ lui-même a été traité. C'est ce que Jésus avait dit dans Jean 15. Le serviteur n'est pas supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et donc, pour en revenir au texte de ce matin, Pierre commence aussi par rappeler, mais ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. En choisissant de placer votre confiance en Jésus, vous avez fait le seul bon choix qui soit possible pour votre vie ici-bas et pour l'éternité. Mais c'est une prise de position que le monde autour de nous ne partage pas forcément. Alors Pierre nous invite à ne pas oublier la joie qui a été la nôtre quand nous nous sommes tournés vers Jésus, quand nous avons pris part au grand départ de la régate avec lui. Parce que nous sommes désormais réconcilié avec Dieu, l'objet de son amour et de sa grâce. N'oublions donc jamais la joie du salut qui découle de la croix, cette joie que Dieu a commencé à déverser dans nos cœurs le jour de notre conversion, cette joie qui s'est exprimée aussi lors de votre baptême, cette joie que Dieu renouvelle chaque matin dans sa présence. La joie du départ. Et puis dans la course, jour après jour, la foi chrétienne est aussi en chemin la possibilité de vivre la joie de la présence du Seigneur. Il nous invite à mener cette course en suivant ses règles. C'est plein de défis, mais les consignes sont claires. Suivre les règles de la course. Et on le voit au verset 19 que les règles qui sont mentionnées, c'est d'obéir à la volonté de Dieu, de faire honneur à Dieu en se montrant digne du nom de chrétien, verset 16. Voilà les consignes pour la course. Et sur la manière de le faire, eh bien, Paul nous invite à nous réjouir tout au long du chemin. Et nous trouvons là la deuxième raison de nous réjouir. Il dit au verset 14, « Vous êtes heureux parce que l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » On a donc non seulement ce point de départ qui est une source de joie, mais le fait qu'il ne nous laisse pas naviguer seuls. Dès le départ, nous recevons le Saint-Esprit en nous et nous devons nous réjouir qu'il est et qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à l'arrivée. Pierre dit « Il repose sur vous ». Et le verbe « reposer » utilisé ici par Pierre décrit le rôle du Saint-Esprit dans le fait qu'il vient nous soulager, qu'il vient nous rafraîchir, qu'il vient nous donner du répit. C'est vraiment l'expression de la proximité de Dieu au milieu des pires difficultés. Jésus avait déjà rassuré ses disciples avant de partir, quand il leur avait dit « Mais quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. » Et je suis convaincu que la persévérance aujourd'hui de nos frères persécutés dans les pays où ils sont persécutés, eh bien c'est là, la persévérance, c'est l'action de l'Esprit de Dieu en eux. Et quoi que nous vivions, si nous vivons par l'Esprit, si nous sommes nés de nouveau, nés par l'Esprit, eh bien Dieu nous invite à marcher aussi selon l'Esprit, comme le dit Galates 5, 25. Alors c'est vrai que la route peut sembler parfois longue et semée d'embûches. Et le danger de compter sur ses propres forces au lieu de compter sur l'aide de Dieu peut advenir dans nos vies. C'est ce que Paul disait d'ailleurs aux Galates quand il disait « Mais après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ?» Comme si au beau milieu de l'océan, on faisait descendre la voile et on commençait à ramer de toutes ses forces. C'est pas comme ça qu'on arrive au but. Peut-être avez-vous essuyé une terrible tempête, ou peut-être êtes-vous épuisé. Et c'est vrai que nous pouvons rencontrer des événements dans nos vies qui nous déstabilisent. Jésus l'avait dit au moment où il allait être arrêté à ses disciples, il dit « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. » Mais oui, il y a des événements dans nos vies qui peuvent nous ébranler dans notre foi. Quand nous ne comprenons pas peut-être certaines choses, pourquoi Dieu nous laisse vivre des choses douloureuses, pourquoi Dieu n'exauce pas, ne semble pas exaucer nos prières. Pourquoi? Et tous ces pourquoi que nous adressons à Dieu. Et bien souvent, Dieu nous répond en vue de quoi? Et non pas des explications de la raison. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, Dieu est à l'œuvre en nous pour nous amener de plus en plus proches de la ressemblance de Christ. Alors que nous sommes tentés de baisser les bras, souvenons-nous ce que dit Pierre ici, l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et réjouissons-nous de sa présence indéfectible, car non, nous ne sommes pas seuls dans notre galère. Dieu est là, en nous, pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous ressourcer, nous fortifier, nous instruire dans la vérité, nous conduire dans la victoire sur le péché. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve, c'est aussi elle qui nous transforme et qui nous anime. Alors je dirais, ils sont les voiles de notre volonté pour nous laisser emporter par le vent du Saint-Esprit. Et puis, Pierre mentionne une troisième joie, c'est celle qui est liée à l'arrivée et qu'il appelle la gloire future qui sera la nôtre. Parce que oui, c'est notre espérance. Pierre le mentionne particulièrement au chapitre 1. Et car à la fin des temps viendra le jugement qui touchera de manière différente ceux qui sont chrétiens et qui seront sauvés de ceux qui n'auront pas cru. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que nous soyons trouvés dignes du royaume de Dieu par laquelle vous souffrez aussi, En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous ont fait souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle loin de la présence du Seigneur. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous avons placé notre confiance en Dieu, en Jésus, alors nous pouvons être remplis de joie et nous serons remplis de joie quand le Seigneur apparaîtra dans toute sa gloire. Verset 13. Comment nous préparer à ce retour? Eh bien, il faut, pour être prêt, Jésus a dit « Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur reviendra. » Quand on sait que quelqu'un va venir chez soi, on range la maison, on fait le ménage, que notre vie soit toujours en ordre. C'est pourquoi nous devons chercher sans cesse à vivre, je le rappelais, en obéissant à la volonté de Dieu, ce que nous dit Pierre, et en se remettant entièrement au Créateur qui est fidèle. Se remettre entièrement au Créateur. C'est vraiment une vie où on lui confie entièrement notre vie à celui qui nous a créés et qui est fidèle. Et là, le verbe, le mot utilisé par Pierre quand il dit « de remettre », c'est un terme bancaire qui signifie « déposer pour assurer sa sécurité ». Notre sécurité est en Dieu, notre Créateur. Il s'agit d'avoir une confiance paisible en celui qui est maître de la création et de nos vies et qui mènera son plan à son terme. C'est ce que Paul disait aussi à Timothée quand il disait « Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. » Et Paul dira également « Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, il en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Et aussi « Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Tous ces versets qui sont dans les lettres de Paul nous rappellent combien Dieu va nous accompagner jour après jour jusqu'au terme de notre parcours ici-bas. Et si nous sommes tentés du repli sur soi, parce que quand on souffre, parfois on a envie de s'isoler, on a envie de rester chez soi, on a envie de plus avoir de contact avec les autres, le Seigneur, oui, c'est vrai que c'est important de vivre les choses avec le Seigneur, mais Pierre, il nous invite aussi à continuer à faire le bien, verset 19. De ne pas rester oisif, mais actif au service de Dieu et de notre prochain. De vivre pleinement ce à quoi nous sommes appelés au milieu de nos contemporains, en gardant les yeux fixés sur Jésus et sur le but. Dans les pires difficultés, nous pouvons toujours compter sur sa présence, sa puissance, sa bonté et nous réjouir en espérance de notre avenir éternel et glorieux qui nous attend dans les cieux. Le texte que je lisais ce matin disait « Il y aura pour nous une joie éternelle » dans Ésaïe 61, verset 7. Alors pour moi, ce texte est vraiment une invitation à nous réjouir, quelles que soient les circonstances. Tout d'abord, de la victoire de Christ sur le péché dans nos vies, de ce plein pardon que nous avons reçu par la foi en Jésus mort et ressuscité. Et si nous ne l'avons pas vécu, ben c'est une invitation ce matin peut-être à faire ce pas, à demander pardon pour vos péchés et à accueillir Jésus comme sauveur dans votre vie. Et puis de faire ce départ avec Jésus dans la route de la vie. De se réjouir, deuxièmement, de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, présence de Dieu puissante et agissante. Quel privilège incroyable nous avons d'avoir Dieu présent en nous pour vivre les difficultés de nos vies. Et puis de se réjouir, troisième point, de l'espérance vivante et glorieuse, l'éternité dans la présence de Dieu. Je vais mentionner. Alors dans la course qui est la nôtre, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les tempêtes comme dans les moments favorables, nous sommes tous invités à vraiment placer notre confiance en Dieu, celui qui nous a appelés, celui qui nous accompagne, celui qui nous attend à l'arrivée. Face à la peur, face à la dépression, face à la haine, dans tous ces domaines-là, Dieu veut nous aider à garder le cap pour arriver à bon port. Et que quand il reviendra, il puisse nous trouver fidèles. Garder le cap. Comment garder le cap? Je pensais à des choses que vous connaissez sûrement, mais d'entretenir une intimité avec le Seigneur par la prière, la lecture de la Bible, de nourrir abondamment son âme et désaltérer sa soif. Et puis de vivre l'Église pleinement, la communion fraternelle, le service, selon les dons que Dieu nous a accordés. De prendre position pour Christ dans un monde qui le rejette, d'oser parler de Jésus, et puis de développer un style de vie qui plaît au Seigneur, d'être radical contre le péché dans nos vies, d'être déterminé à résister à la tentation, à ne pas se laisser distraire, et puis chercher la volonté de Dieu. Il est notre boussole, c'est lui qui nous indique la bonne direction. Dans ce que Pierre nous rappelle ici, l'obéissance et la confiance. Je voudrais prier avec vous ce matin. Merci Seigneur parce que tu es celui qui vient remplir notre tranche, changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Tu nous rends capables de t'aimer et d'aimer notre prochain. Et tu nous invites Seigneur à faire ce chemin, ce parcours avec toi comme tu as parcouru le chemin avec les disciples d'Emmaüs. Tu nous invites à monter dans notre barque. À te laisser monter dans notre barque. Merci Seigneur parce que c'est une vie extraordinaire qui est en toi, parce que Seigneur tu es la source du pardon, de la paix, de la joie, de la réconciliation, de la guérison intérieure. Merci Seigneur parce que sans toi, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Alors Seigneur, que tu puisses renouveler en nous, Seigneur, le désir de faire suivre le bon cap avec toi. Et renouvelle en nous, Seigneur, cette joie, ce premier amour, cette joie d'avoir été sauvé par grâce, cette joie de marcher avec toi parce que ton esprit est là et de savoir que tu nous as préparé une place près de toi le jour où tu reviendras, le jour où nous quitterons cette terre. Alors merci, Seigneur. Tu connais les situations de chacun et de chacune ce matin. Tu sais les choses qui sont lourdes, les choses qui sont plus légères. Et que dans ces circonstances, Seigneur, tu viennes nous visiter, renouveler en nous cette joie, Seigneur, qui ne tarit jamais et qui est liée non pas à ce que nous faisons, mais à ce que tu as fait et à ce que tu feras encore. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Amen.